France Culture, il est midi et demi, exactement. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Olivia.
Le journal, avec vous.
Le gouvernement lance à partir d'aujourd'hui à Matignon un Grenelle des violences conjugales dont les associations espèrent qu'il pourra déboucher sur un plan Marshall pour enrayer un phénomène, le féminicide ayant déjà fait plus de 100 morts depuis le début de l'année. Invité de la rédaction dès le début de ce journal, Ernestine Ronet, coprésidente de la commission violence au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le taux d'absentéisme dans les entreprises françaises a dépassé les 5% l'an dernier.
Oui, soit une hausse de 8% par rapport à l'année précédente. C'est du moins ce qui ressort d'une nouvelle étude publiée ce matin qui pointe notamment une progression plus marquée des arrêts de longue durée.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en pleine tempête politique, affrontera cet après-midi les députés de l'opposition, mais aussi de son propre camp conservateur, lesquels espèrent encore empêcher une sortie de leur pays de l'Union européenne sans accord.
Un véritable bras de fer donc en perspective, avec désormais en toile de fond qui plus est la menace d'élections anticipées. Enfin, au lendemain de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois, Pékin a décidé hier de contrer la surenchère du président Donald Trump en déposant une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
C'est à la fois une histoire du patriarcat, mais aussi un manifeste politique pour l'égalité des sexes. Il repense la place des hommes dans cette égalité et la masculinité en 2019. Yvan Jablanka est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités ». Au seuil.
Merci et à tout à l'heure. C'est un véritable fléau, autant qu'une hécatombe, une réalité que de simples mots ne sauraient suffire à décrire, pas même ce néologisme entré dans le dictionnaire en 2015, féminicide en France. Tous les trois jours, une femme est morte l'an dernier sous les coups d'un homme qu'elle aimait ou avait aimé. 121 décès au total, une liste macabre écrite en lettres de sang et qui pourrait empirer cette année puisque le seuil de 101 victimes a d'ores et déjà été dépassé. C'était hier dans le Tarn, une femme a été tuée par son mari, elle était âgée de 92 ans. Alors aujourd'hui à Matignon s'ouvre donc le premier Grenelle des violences conjugales piloté par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, laquelle accueillera représentants d'associations, d'aide aux victimes, forces de l'ordre, juges, avocats et familles de victimes. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour.
Ce Grenelle est prévu pour durer plusieurs semaines. Il se conclura le 25 novembre avec la journée contre les violences envers les femmes. Que peut-on en attendre, Fiona ?
Eh bien, des annonces. Déjà, le gouvernement semble décidé à agir et vite puisque les premières mesures d'urgence pour renforcer la protection des victimes de violences conjugales seront dévoilées par le Premier ministre dès cet après-midi, nous dit Matignon. Édouard Philippe, qui a décidé de réunir une très grande partie de son gouvernement pour ce Grenelle, aux côtés de la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, seront présents les ministres ou secrétaires d'État en charge de la justice, du travail, de l'éducation nationale, de l'intérieur, du logement, de la santé ou encore des outre-mer pour ne citer que. Une volonté donc de répondre à la question des violences de manière transversale et d'inclure tous les territoires. Car en plus de cette concertation à Paris, une centaine de Grenelles locaux est organisée partout en France. Aujourd'hui, ce sont 80 associations, magistrats, policiers, gendarmes, administrations qui seront autour de la table. Les concertations s'organiseront ensuite sous forme de 10 groupes de travail axés sur 3 thématiques. Prévenir, prendre en charge, punir pendant 3 mois pour un résultat final, vous l'avez dit Thomas, le 25 novembre prochain.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer ce Grenelle sur les violences conjugales, invité de la rédaction aujourd'hui, Ernestine Ronet, coprésidente de la commission violence au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Bonjour madame.
Bonjour.
Et toujours bien sûr à m'écouter Fiona Mogadam pour vous interroger. Une première question madame Ronet, ce Grenelle n'a pas encore commencé que déjà des rassemblements sont prévus pour dénoncer la passivité du gouvernement et pourtant tout un arsenal de mesures existe aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'ordonnance de protection, du bracelet électronique, d'éloignement. Est-ce que cela signifie au fond que ces dispositifs sont insuffisants ou bien qu'ils sont mal mis en œuvre ?
Plutôt qu'ils sont mal mis en œuvre ou insuffisamment mis en œuvre, serait plus juste. En fait, la loi pourrait déjà permettre beaucoup de protection. Malheureusement, c'est très insuffisamment mis en œuvre.
Ernestine Ronet, pour vous, la première des mesures qui doit être prise, c'est quoi ?
Ce n'est pas une mesure, c'est un changement de mentalité. Je pense qu'il faut qu'on arrive à penser la grande dangerosité des hommes violents et donc que face à la présomption d'innocence de l'agresseur, on ait une présomption de crédibilité pour la victime. Ce qui veut dire qu'au moment des auditions ou quand la dame révèle des violences à un service social ou à n'importe qui d'autre, qu'on la croit, qu'on lui permette de dire l'ampleur des violences, dès les premières violences. Et ensuite, bien sûr, on aura une enquête et donc des poursuites. Et puis peut-être que la deuxième chose à laquelle je pense, c'est le principe de précaution. La loi permet aujourd'hui, avant la commission nouvelle violence, de protéger les dames. Eh bien, protégeons-les beaucoup plus en attribuant davantage de téléphones grave danger aux femmes victimes, en attribuant davantage les ordonnances de protection pour que réellement elles puissent être protégées en amont.
Alors, vous évoquez le téléphone grave danger. Il est compliqué de le déployer aujourd'hui en France ?
Non, il n'est pas compliqué à déployer. Il suffit de repérer la dangerosité, donc d'évaluer le danger. Et ça suppose que tout le monde se mobilise, les magistrats, les policiers, les associations, les services sociaux, pour signaler que cette dame est en danger et donc demander au procureur d'attribuer le téléphone. Sans doute avons-nous pas assez de téléphones, même s'ils ne sont pas tous distribués. Plus on aura de téléphones, plus les magistrats auront une tendance à donner plus facilement le téléphone à une dame qui serait en danger. Qui serait, on sait, mais il faut être dans le principe de précaution. Il faut se dire, il faut la protéger.
Ernestine René, vous faites partie des invités à Matignon aujourd'hui. Il y a plusieurs associations qui n'ont pas été conviées. C'est le cas, par exemple, d'Oser le féminisme. Je voudrais qu'on écoute sa porte-parole, Raphaël Rémy-Leleuf.
Ça dit que le Grenelle n'est pas si ouvert à la discussion et à toutes les parties prenantes comme le secrétariat d'État s'y était engagé. Vraiment, pour nous, c'est dommage. On a demandé à être invité. On a répété tout l'été que le Grenelle ne devait pas être une simple opération de communication, mais un moment où le gouvernement devrait mettre sur la table des propositions. L'engagement de l'État, ça ne peut pas être 1 million. L'engagement de l'État qu'on demande est beaucoup plus fort. Il ne peut pas s'agir uniquement de se reposer sur le travail d'associations de terrain qui ont beau faire un travail formidable. On a besoin de l'appui de la puissance publique, donc des fonds dégagés, des fonds importants dégagés, au moins 1 milliard, pour à la fois développer la formation des personnels de police et de justice dans l'accueil des victimes, mais aussi l'accompagnement plus général des victimes en s'inspirant de ce qui a pu être fait en Belgique, par exemple, avec des structures multidisciplinaires permettant d'avoir un véritable accueil adapté aux femmes victimes de violences conjugales.
Ernestine René, 1 milliard d'euros, c'est aussi ce que réclame le Haut Conseil à l'égalité.
C'est ce qu'a réclamé le Haut Conseil, le Conseil économique, social et environnemental, la Fondation des femmes. Oui, il faut des moyens, c'est sûr. Et puis, il faut réfléchir vraiment à ce que toute la société se mobilise. Et ça, c'est très important.
Et pour faire quoi, justement, c'est 1 milliard ?
C'est facile. Il y a les lieux de mise en sécurité et l'hébergement. Ça coûte en effet cher. Si c'est des lieux spécialisés avec des personnels qualifiés, formés. Et puis, les téléphones, la santé, tout ce qu'il faut pour sortir des violences, ça coûte évidemment de l'argent. Pas que. Ça demande aussi à être repensé. C'est tout l'intérêt de ce Grenelle. C'est aussi qu'on pense à mieux mettre en œuvre la loi telle qu'elle existe et à l'améliorer. Je pense qu'il y a plein d'améliorations possibles, bien sûr.
Alors, en 2017, le président de la République promettait la mise en place de structures interdisciplinaires dans les hôpitaux pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. C'était pour le courant de l'année 2018. Aujourd'hui, on est en 2019. Est-ce que ce type de structure existe ?
Oui, ça existe. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, nous avons la Maison des Femmes de Saint-Denis qui existe. Donc, bien sûr, ça existe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le multiplier, trouver un dispositif, indiquer le dispositif qu'il faudrait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le même lieu, on ait le médecin légiste qui va faire un certificat médical détaillé, adapté, le policier qui va prendre la plainte et qui va être formé pour prendre la plainte et qui sera volontaire pour le faire, le parquetier qui va poursuivre, etc. C'est-à-dire que dans le médecin, bien sûr, qui va prendre en charge, que dans le même lieu, on ait toutes ces personnes qui travaillent ensemble et qui donc vont évaluer les situations de danger ensemble.
Donc des structures qu'il faudrait généraliser.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce Grenelle peut changer la donne véritablement en matière de lutte contre les violences faites aux
femmes ? Je pense que nous sommes en train de connaître quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, le fait que la société compte une à une les femmes tuées, ça rend compte de la dangerosité des hommes violents et ça crée un électrochoc, une conscience, une prise de conscience dans la société. Ça, à mon avis, c'est extrêmement positif et très important. Maintenant, il faut que sur les territoires partout, les gens se mobilisent pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait sur leur propre territoire. C'est le sens de ce qui se passe en ce moment dans les 100 lieux dont vous avez déjà parlé. Et puis que ça se poursuive, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas aujourd'hui et qu'on n'attende pas le 25 novembre, mais qu'on poursuive cette réflexion pour avoir des propositions concrètes qui sortiront à ce moment-là, à la fois au niveau national et puis au niveau aussi local, c'est important. Donc c'est une mobilisation et c'est ça qui, à mon avis, va faire que ce Grenelle aura du sens et sera utile. Je crois vraiment que c'est possible que de ce Grenelle sorte quelque chose du fait que les gens se mobilisent. Mais c'est ça le problème. Donc, en même temps, hein, il faut qu'on se mobilise. Sinon, évidemment, on aura des mesures, mais comme on a déjà le téléphone grave danger, tout ça, qui ne sont pas forcément appliquées. Donc, la question, c'est qu'on se mobilise pour l'application de ce qu'on souhaite et de ce qui existe déjà.
Merci. Ernestine Ronet, je le rappelle, coprésidente de la commission violence au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Fiona Mogadam. Les partenaires sociaux sont attendus jeudi et vendredi prochain à Matignon pour un nouveau round de concertation sur la réforme des retraites sur fond de cacophonie gouvernementale, mais aussi, on vient de l'apprendre, l'entrée au gouvernement de Jean-Paul Delevoye, jusque-là haut commissaire à la réforme est censé conduire la concertation citoyenne voulue par Emmanuel Macron. Sa nomination sera officialisée dès cet après-midi. L'ancien président de l'Association des maires de France continuera de porter le dossier et la future loi. Et puis après 18 mois de discussion entre syndicats et patronats, Édouard Philippe prendra lui aussi le chemin de la négociation, donc à partir de jeudi. De même qu'Agnès Buzyn, laquelle reste attachée à ses prérogatives. C'est moi qui porte les retraites, rappelait-elle encore la semaine dernière. La ministre des Solidarités et de la Santé, qui n'en oublie pas pour autant un autre dossier brûlant, celui des services, des urgences touchées depuis des mois par un vaste mouvement social. Hier, Agnès Buzyn a annoncé un nouveau train de mesures, comme de permettre au SAMU, sous certaines conditions, de transférer certains patients vers un cabinet de ville ou une maison de santé et ainsi sortir du tout urgence. Et puis une nouvelle catégorie d'infirmiers aux urgences habilités à établir des diagnostics et à réaliser certains actes médicaux pourrait également être créée. Preuve toujours et encore qu'il est difficile de faire rimer santé avec épargne, selon une étude révélée ce matin par le Figaro. Les arrêts maladie de longue durée exploseraient en France, en particulier chez les salariés de moins de 40 ans, de quoi hypothéquer un peu plus encore donc la promesse du gouvernement l'an dernier de faire baisser le coût croissant des indemnités journalières versées en cas d'arrêt. Une dépense évaluée à 7,5 milliards d'euros pour la Sécu et en progression de l'ordre de 4% chaque année. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que révèle cette nouvelle étude et surtout, Catherine, qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas?
Alors, ce baromètre annuel du groupe de conseil Heming évalue à 5,1% le taux d'absentéisme en 2018. C'est 8% de plus qu'en 2017. Cela représente en pratique 18,6 jours en moyenne par an et par salarié contre 17,2 jours en 2017. Un chiffre qui mêle, il faut le souligner, les accidents du travail, les arrêts maladie et les maladies professionnelles dès le premier jour d'arrêt. Alors, que nous disent ces données? Que l'ensemble des secteurs sont concernés. En toute logique, l'absentéisme croît avec l'âge et les problèmes de santé sont plus nombreux. Même si l'étude souligne une hausse des arrêts de longue durée particulièrement notable chez les moins de 40 ans. Cet indice témoigne donc de l'évolution des conditions de travail et des capacités des personnes à être au travail, non pas d'un simple état des pathologies, mais aussi de la faible mobilisation des entreprises. 44% des salariés interrogés disent qu'aucune action n'a été mise en place à leur retour. Soulignons néanmoins que cet indice de durée d'absence mêle arrêts de courte durée et maladies chroniques et ne distingue pas les problèmes de santé classiques, avoir la grippe ou se casser le bras, et ceux induits par la vie professionnelle dont le spectre est pourtant large, allant des troubles musculo-squelettiques à l'épuisement professionnel. Cette approche ne suffit donc pas à vraiment analyser les causes et les réponses à apporter. Ces chiffres, enfin, ne doivent pas être confondus avec ceux des arrêts maladie indemnisés, une dépense que le gouvernement cherche depuis plusieurs mois à réduire. Il en sera à nouveau question fin septembre lors du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale.
Merci Catherine Pétillon. Pour la première fois, une vaste étude publiée aujourd'hui démontre que 6 familles de substances polluantes présentes dans l'environnement, parmi lesquelles les bisphénols ou les parabènes, sont également présents dans l'organisme de tous les Français. L'organisme public à l'origine de cette enquête ne se prononce pas en revanche sur les conséquences sanitaires de cette pollution encore mal connue, mais rappelle que certains de ces produits sont des perturbateurs endocriniens ou des cancérigènes avérés ou suspectés. peu pressé, visiblement, de retrouver non seulement l'arène politique française, mais aussi le procès qu'il attend le 19 septembre prochain à Bobigny pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire suite à la perquisition mouvementée au siège de son parti. C'était en octobre dernier. Jean-Luc Mélenchon poursuit sa tournée latino-américaine. Après le Mexique, c'était fin juillet. Le chef de file de la France insoumise est attendu en Argentine aujourd'hui. Un nouveau périple en Amérique du Sud, donc, pour, dit-il, se ressourcer et tirer des leçons utiles du regain de la gauche sur ce continent. Les précisions de Sophie Delpont.
C'est en prenant le large que Jean-Luc Mélenchon aborde la rentrée depuis l'Amérique latine. L'Argentine aujourd'hui, avant de se rendre au Brésil pour rencontrer dans sa prison l'ancien président Lula. Cette tournée sud-américaine est avant tout un moyen pour lui de se ressourcer après une année difficile, selon Arnaud Mercier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris II Panthéon-Assas.
Ça peut traduire peut-être une forme de lassitude pour l'instant sur la vie politique française telle qu'elle se déroule au sein de son mouvement, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'il a pris une énorme gifle électorale lors des élections européennes. Et on ne peut pas exclure qu'il éprouve ce besoin d'une mise à distance de la vie politique française pour mieux rebondir sans doute plus tard.
Mais c'est aussi un moyen de redorer son image en s'affichant notamment aux côtés du président mexicain fin juillet. Lors des amphis d'été, Adrien Quatennens, désormais coordinateur du mouvement numéro 2 de LFI, avait souligné que cette absence était aussi une opportunité politique qui est de démontrer que son mouvement peut fonctionner sans lui, comme une manière d'amorcer la relève. Jean-Luc Mélenchon ne semble pas pressé de rentrer en France, d'autant qu'il est convoqué le 19 septembre prochain au tribunal correctionnel avec 5 proches, dont 2 députés, pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation lors des perquisitions d'octobre dernier au siège de la France insoumise.
C'est aujourd'hui la rentrée pour les parlementaires britanniques. Une rentrée dans un embrouillamini auquel le Royaume-Uni nous a habitués depuis 3 ans maintenant que la question autour du Brexit tourne tantôt autour du casse-tête, tantôt au bras de fer. À cette nuance près, toutefois, que jamais les tensions n'avaient paru aussi âcres qu'aujourd'hui, hier après que le Parti travailliste, mais plus encore des frondeurs du Parti conservateur, eurent annoncé leur intention de déposer une proposition de loi visant à interdire une sortie de l'UE sans accord. Eh bien, Boris Johnson n'a pas hésité à menacer d'exclusion les députés de son camp qui s'aventureraient à voter contre lui. Autant dire que c'est dans une ambiance électrique donc que les députés reprendront cet après-midi le chemin de Westminster, sans compter que le Premier ministre conserve encore un autre atout, la possibilité d'organiser des élections législatives anticipées. Reportage à Londres, signé de notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud.
Menacer des députés de remettre leur siège en jeu, ce n'est jamais très populaire. Et aux communes, la perspective d'élections anticipées ne déclenche pas l'enthousiasme des élus, et ce quel que soit leur parti, même s'ils ont le vent en poupe, comme l'explique le libéral-démocrate Tom Brake.
Pour notre parti, des élections, oui, en principe, en ce moment, les sondages, ça marche bien pour nous, mais en même temps, il y aura des difficultés pour former un gouvernement, ça prendra du temps, et hop, le 31 octobre, on sera parti sans deal, sans accord.
Et cela, une majorité de parlementaires y est opposée. Rien ne garantit d'ailleurs à Boris Johnson qu'il obtiendrait le vote de 2/3 du Parlement nécessaire pour déclencher ce nouveau scrutin, estime le travailliste Justin Meadows.
Boris Johnson cherche la bagarre. Il essaie de manœuvrer pour organiser des élections anticipées. Mais ce n'est pas gagné. Si une majorité de députés est opposée à une sortie sans accord, cela signifie aussi qu'une majorité est hostile à un nouveau scrutin, qui fera peser le risque d'une sortie brutale de l'Union. Nous vivons une période intéressante, n'est-ce pas ?
On marche sur la tête avec des députés de l'opposition qui pourraient donc voter contre de nouvelles élections. C'est rare en démocratie, quand d'autres appartenant à la majorité, comme Justin Greening, ont clairement annoncé leur volonté de concourir sans l'étiquette du Parti conservateur si Boris Johnson propose ce nouveau scrutin, et ce alors même que les conservateurs sont donnés vainqueurs dans les sondages. Beaucoup de députés redoutent en fait de revenir de nouveau devant des électeurs lassés par tous ces rebondissements et qui pourraient finalement rester à la maison et laisser les partisans de l'europhobe Nigel Farage occuper le terrain.
C'est ce que l'on pourrait nommer les dangers de la démocratie directe. En Italie, voilà plusieurs semaines maintenant que le mouvement anti-système 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche se sont engagés dans une difficile négociation pour donner vie à une nouvelle coalition de gouvernement contre nature. Et alors que l'on touche presque au but, eh bien, voilà que tout pourrait voler en éclats aujourd'hui. Les adhérents du mouvement 5 étoiles sont en effet appelés à se prononcer ce mardi sur cette alliance par un vote sur Internet, un vote qui s'annonce donc a priori décisif pour l'avenir de la péninsule, mais a priori seulement, car en réalité, rien dans les règles internes au mouvement 5 étoiles n'obligera in fine le leader, Luigi Di Maio, lequel n'a d'ailleurs pas donné de consigne de vote à suivre les résultats de cette consultation. C'est un nouvel épisode de la guerre commerciale à laquelle se livrent la Chine et les États-Unis depuis plus d'un an hier, en réaction à l'imposition par Washington de nouveaux droits de douane sur ses importations. Pékin a décidé de porter plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Marie Vienno, bonjour.
Bonjour.
Alors, s'il fallait encore se convaincre de ce que la trêve initiée au printemps dernier entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping a fait long feu, c'est désormais chose faite. Ce qui est intéressant, en revanche, dans ce nouvel épisode, Marie, eh bien, c'est que la Chine en appelle à l'OMC, c'est-à-dire précisément l'organisation dont l'administration américaine conteste aujourd'hui l'efficacité.
Oui, c'est la troisième procédure engagée par la Chine auprès de l'OMC contre les droits de douane imposés par les Américains depuis mars 2018 que cette bataille commerciale a commencé. C'est une façon pour Pékin de dire aux Américains, vous ne respectez pas les règles et donc j'en appelle à l'OMC pour qu'elle le confirme et me donne le droit de vous taxer en retour. Sauf que les Chinois n'ont pas attendu que l'OMC leur donne raison pour le faire. Ils ont déjà taxé en représailles des produits américains. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'arrière-pensée politique dans cette nouvelle procédure. Finalement, les Chinois, comme les Américains, considèrent qu'il ne faut pas attendre que l'OMC tranche un litige pour riposter concrètement. Si Pékin continue malgré tout à en appeler à l'OMC pour trancher son différend avec Washington, c'est surtout vis-à-vis de ses partenaires tiers pour montrer son attachement de façade au système multilatéral. L'administration américaine, elle, ne varie pas dans son discours. Les taxes visent à faire pression sur les Chinois pour qu'ils cessent les transferts de technologies forcées et ils invoqueront l'atteinte à la morale publique, une clause prévue dans les traités de l'OMC pour les justifier. Cette procédure, cependant, mettra beaucoup de temps à aboutir, tant l'appareil judiciaire de l'OMC est engorgé. Cet été, l'OMC a donné raison à la Chine pour une plainte qu'elle avait déposée pour des hausses de taxes américaines datant de 2012.
Merci Marie Vienno. Autre défi sans précédent pour le président chinois depuis son arrivée au pouvoir, c'était en 2012. La contestation à Hong Kong, en dépit des incidents de plus en plus nombreux en marge de leur rassemblement, mais aussi des menaces désormais explicites du gouvernement central de Pékin, les militants pro-démocratie ne désarment pas. Ce matin encore et pour la deuxième journée consécutive, étudiants et lycéens ont choisi de ne pas rejoindre leurs établissements scolaires pour aller manifester. Et puis, c'est encore dans ce contexte que ce matin, la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, laquelle concentre sur elle et depuis trois mois la colère du mouvement pro-démocratie, a affirmé n'avoir aucune intention de démissionner. Or, selon un récent enregistrement audio que l'agence Reuters a pu écouter, Carrie Lam affirmait pourtant tout le contraire, ou plus exactement, qu'elle démissionnerait si toutefois elle en avait l'opportunité. Les explications de Valérie Crovat.
C'était devant un parterre de chefs d'entreprise. Carrie Lam prend la parole et revient sur les événements qui secouent l'ancienne colonie britannique.
En tant que chef de l'exécutif, avoir causé un tel chaos à Hong Kong, c'est impardonnable. Juste impardonnable. Si j'ai le choix, la première chose après avoir présenté de profondes excuses est de démissionner.
Ce matin, la chef de l'exécutif nommée par Pékin est revenue sur ses propos. Elle affirme n'avoir jamais envisagé son départ et encore moins d'en avoir discuté avec le gouvernement chinois. Pékin, qui lui a réitéré son soutien, un soutien ferme, a dit ce matin le porte-parole du bureau des affaires de Hong Kong et Macao. Dans l'enregistrement récupéré par l'agence Reuters, Carrie Lam explique n'avoir qu'une faible marge de manœuvre pour résoudre la crise. Elle soutient que la Chine n'a pas de plan pour déployer des soldats sur place. Pour les manifestants pro-démocratie, la fuite de cet enregistrement ne peut être qu'une manœuvre pour présenter la chef de l'exécutif comme une femme sympathique et sincère, mais pas sûre que cela soit suffisant pour les attendrir.
Toute la nuit dernière, l'ouragan Dorian s'est encore acharné sur les Bahamas où il a fait au moins 5 morts. Le Premier ministre évoque d'ores et déjà une tragédie historique pour son archipel des Caraïbes. Et puis aux États-Unis, cette fois-ci, plusieurs millions de personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud ont reçu l'ordre d'évacuer les côtes. Quand bien même l'ouragan s'est légèrement affaibli, il a été rétrogradé ce matin en catégorie 3. Il n'en demeure pas moins extrêmement dangereux avec des vents dépassant les 200 km à l'heure. On termine avec un mot de météo, heureusement plus clémente en France, même si le ciel restera menaçant cet après-midi sur la Corse et les Alpes du Sud. Partout ailleurs, le soleil s'imposera assez largement. Quant aux températures, elles afficheront entre 20 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.